Tout pour investir, l'événement sur BFM Business.
Et nous sommes avec Frédéric Stollard d'Altaroc. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, c'est vrai qu'on a parlé un peu plus généralement des placements dans le non-coté un petit peu plus tôt dans cette émission. Il y a un actif qui saute aux yeux, là en ce moment, dans les dynamiques de développement du non-coté, et particulièrement vis-à-vis du grand public, et c'est votre sujet hein, spécifiquement chez Altaroc, c'est le private equity. Et on va se poser la question tout bêtement de savoir comment commencer à placer dans le private equity et trouver les bons produits. Quel conseil vous pourriez donner? On va peut-être commencer par tout simplement décrire ce que c'est le private
equity. Comment ça marche? Déjà, alors private equity, ça veut dire, c'est l'opposition à public equity, parce que l'industrie a été inventée aux États-Unis. Public equity, c'est le côté. Private equity, c'est le non-côté. Ça consiste à investir au capital de sociétés non-cotées, en majoritaire ou en minoritaire, avec deux ambitions, Antoine. Mm-hmm. La première, aider les sociétés qu'on accompagne à changer de braquet. Le fonds de private equity doit aider industriellement et opérationnellement la société accompagnée à changer de ligue, si vous voulez. Mmh. Et la deuxième ambition du fonds qui accompagne en private equity, c'est qu'à 7 ans ou 8 ans, il voudra vendre sa participation en espérant faire 2 ou 3 fois la mise, en tout cas historiquement. Alors, il y a 2 différences principales entre le côté et le non-côté. La durée et l'engagement. Mmh. La durée, c'est important que les gens le comprennent. Un fonds de private equity, il est investi en moyenne pendant 7 ans et demi aux côtés d'une société qui l'accompagne. L'investisseur institutionnel qui vient à vos émissions, il est investi en moyenne 5,5 semaines sur un investissement coté. Donc, oui, en termes de rotation et de durée d'engagement, le private equity est beaucoup plus long. C'est la durée des business plans. La deuxième différence, Antoine, c'est l'engagement. Le fonds de private equity a une vocation active, c'est ce qu'on appelle de la gestion engagée. Il va amener tout son écosystème de ressources pour aider la société investie à changer de ligue de braquet. Il amène expertise, relations, réseaux mondiaux, pour être engagé. Il est au conseil d'administration, il pilote beaucoup de décisions stratégiques ou copilote avec le management, donc c'est durée et engagement. Et à la fin, qu'est-ce que ça permet de faire, Antoine? De la surperformance, en tout cas historiquement, de la surperf par rapport au côté. Le côté, les sources, c'est PitchBook, qui est l'institut de référence du non-côté mondial, un des instituts. Sur les 20 ans passés, Antoine, le côté a livré à peu près 8% net. Le non-côté, je compare moyenne à moyenne, 13,5%. 550 bips d'écart, 5,5%, c'est très significatif parce que sur des poches longues, et le private equity doit être long. Alors évidemment, les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs, mais pour quelqu'un qui se projette à 20 ans, 8% par an pendant 20 ans, ça fait 4,5 fois la mise. 13,5% pendant 20 ans, ça fait 12,5 fois la mise. Des écarts de perf très importants, si tant est qu'on soit prêt à cette durée. Et on cherche à accompagner les sociétés de l'économie réelle avec des fonds engagés. Voilà, c'est ça en deux mots.
D'accord. Bah, écoutez, c'était clair, c'était limpide. Alors, comment vous expliquez d'ailleurs cette dynamique de développement du private equity, alors que l'épargnant, vous, votre grande spécialité, c'est de rendre accessible aux petits investisseurs le private equity, qui était généralement on va dire la dynamique de développement de très gros fonds.
Oui.
Comment vous expliquez que le petit épargnant, lui, son premier critère, mais vraiment dans toutes les enquêtes, c'est la liquidité. Private equity, c'est pas particulièrement liquide, on le sait, c'est quelque chose de bloqué pendant plusieurs années et qui donne du rendement, mais voilà, c'est pas forcément très. Comment vous expliquez cette dualité finalement?
Moi, je suis pas convaincu, Antoine, que l'investisseur privé, son obsession soit la liquidité. C'est intéressant, la liquidité, mais elle a un prix. Donc, si on veut un produit très liquide, on va accepter des rendements plus faibles.
C'est ça.
Ce qui fait le succès, en tout cas, ce qui a fait le succès de l'Altaroc depuis 4 ans qu'on a lancé la plateforme, on a quand même collecté 1,5 milliard, hein, on a à peu près 10 000 clients privés, c'est cette idée d'accompagner l'économie réelle, d'accompagner des champions, de toucher du doigt l'économie réelle qu'on accompagne, d'accompagner des sociétés qu'on connaît, des sociétés qui nous passionnent, à travers des actionnaires professionnels très sophistiqués. Donc, investir comme les institutionnels, ça a passionné les clients privés, en tout cas au démarrage d'Altaroc. Et il y a 2 choses qui les intéressent. Les sociétés en hypercroissance, ouais, qui auraient pu aller en bourse et qui ne sont pas allées en bourse. Je prends un exemple. Elles viennent souvent à vos émissions. OVH, Back Market, Doctolib. Elles ne sont pas allées en bourse au début de leur histoire. Elles sont allées accompagnées par des fonds de private equity. Avec les fonds que nous investissons, dans lesquels nous investissons, le client privé peut rentrer au capital de ces sociétés. Donc, on appelle ça les hyper-growers, les sociétés en hyper-growth. Deuxième type de société qui intéresse le client privé, les consolidateurs champions. Donc, les sociétés qui étaient champions régionales, qui sont devenues nationales, européens ou mondiaux. Donc, dans le monde de la santé, Général de Santé, Vivalto, Seva Santé Animale, toutes des sociétés qui auraient pu se coter en bourse au départ de leur histoire, qui ont choisi le private equity pour consolider les cliniques, la pharmacie, le dentaire, la radiologie, les laboratoires de santé animale. Donc, c'est cette envie du client privé d'accompagner l'économie réelle, de la toucher du doigt sur des durées longues, pour aller chercher cet écart de performance. Et il est prêt à une certaine forme d'illiquidité.
Oui, et d'ailleurs, bon, on en reparlera, mais la mise en bourse est aussi une étape de la vie d'une entreprise à travers des cycles de private equity.
Donc, elle vient de plus en plus tard, Antoine. Oui, ça, c'est intéressant. Oui, oui. Parce qu'autrefois, la cotation en bourse, c'était le graal absolu. Oui, et on voulait la chercher tôt.
Oui.
Voilà. Aujourd'hui, le nouveau fonds de private equity à taille plus grande, puis le nouveau fonds de private equity à taille plus grande, et peut-être ultimement la bourse, c'est le nouveau chemin.
Oui.
Donc la bourse vient beaucoup plus tard dans l'histoire.
Mmh. Voilà. Tout à fait. Et alors, c'est vrai qu'en plus, il y a quelques décennies, quand on parlait de private equity, on parlait de fonds géants, des Américains, je parle des Cinven, des KKR, des grosses structures comme ça, qui avant tout faisaient de l'immobilier. Ils faisaient de l'immobilier, ouais. LBO, ils s'arrogeaient des énormes portefeuilles immobiliers. Là maintenant, on a de plus en plus de fonds de private equity et de gros fonds qui accompagnent des sociétés qui deviennent tellement performante et tellement dynamique qu'ensuite c'est la bourse et c'est des success stories. Et ça, on peut en raconter quelques-unes.
Ben, prenons les sociétés que j'ai mentionnées. Mmh. OVH, Doctolib, Backmarket. On parle de sociétés qui valent plusieurs milliards d'euros, qui hier se seraient introduites en bourse et qui là ont choisi, c'est un choix délibéré de ces sociétés.
Oui.
Elles ont choisi de ne pas se coter en bourse. Pourquoi ? Parce que le private equity amène le capital, que les marchés cotés apportent aussi, mais il apporte aussi la valeur ajoutée. Mmh. Il apporte la capacité de faire croître la société plus vite. Donc c'est ça l'élément majeur, c'est que le private equity apporte cet élément de surperformance au manager, et c'est ça aussi qui intéresse le client privé.
Ouais, absolument. Ouais. Et des sociétés comme Moncler, par exemple, qui est un excellent...
Très longtemps par des fonds de private equity.
Absolument. Si nous regarde Patrick Sayer, bonjour, qui aura été à l'origine de ça.
OpenAI aujourd'hui, en hypercroissance. OpenAI ne s'est pas introduit en bourse. On parle de valorisation de 200 ou 300 milliards. OpenAI est aujourd'hui financé par des fonds de private equity et quelques stratégiques.
Et là, ça peut aussi être une solution pour des entreprises qui travaillent sur des secteurs tellement novateurs que, et c'est le cas d'OpenAI, on fait beaucoup de chiffres d'affaires, on brûle aussi énormément de cash. Donc le private equity est aussi un creuset dans lequel on peut se permettre de se développer en n'étant pas tout à fait sur tous les moteurs de croissance qui permettraient d'être cotés en bourse, et ensuite peut-être d'y accéder une fois que ce sera une opportunité.
Parce que la bourse a besoin d'une chose, Antoine, de lisibilité et de simplicité. Oui. Si je ne suis pas un objet gros, simple à comprendre et à trajectoire de croissance lisible, la bourse ne me valorisera pas bien. Pour des sociétés un peu plus petites, on parle de sociétés qui valent encore quelques centaines de millions ou quelques milliards, dont la trajectoire d'hypercroissance est dure à comprendre pour les marchés financiers, le private equity est finalement le creuset idéal pour construire un champion avec des actionnaires engagés. De vous à moi, le travail que fait le fonds de private equity au capital d'une société, c'est du délit d'initié, hein. Donc, parce qu'il connaît l'information, il a accès à l'information. Donc, sur un marché coté, ça ne serait pas possible.
Bien sûr.
Donc, on prépare des champions, on construit des champions. C'est la raison d'être du private equity et c'est ce qui séduit les clients privés.
Voilà. Alors, vous avez cofondé Altaroc en 2021.
Oui.
Donc, vous, personnellement, vous êtes un gérant de fonds et c'est une des machines de guerre du private equity. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour terminer, comment ça se passe, un fonds de fonds? Comment ça se construit?
C'est très simple, Antoine. Un fonds de fonds investit dans des fonds. Plutôt que d'investir dans des deals, un fonds de fonds investit dans des fonds. Typiquement, chez nous, c'est 7 fonds. Donc, quel est l'intérêt d'un fonds de fonds? Il y en a 3. Accès, diversification, simplicité. Accès, parce que si je veux investir dans un fonds champion du monde parmi ceux que vous avez cités tout à l'heure, le ticket d'entrée pour les institutionnels, il est minimum de 20-30 millions. Je veux 7 fonds, ça fait 150-200 millions. Le client privé ne peut pas faire ça. Donc, l'intérêt du portefeuille Altaroc, c'est que pour 100 000 euros décaissés sur 5 ans, je peux accéder en termes d'accès à des gérants dans un portefeuille clé en main. Donc, accès, c'est première chose. Diversification, Antoine, c'est la deuxième chose. J'ai accès à un portefeuille qui, en transparence, me permet d'avoir un investissement dans 450 sociétés finales. Donc, j'ai cette diversification gérant secteur pays magnifique, indispensable dans un portefeuille. Et le troisième sujet, simplicité. En un clic, chez mon conseiller en gestion de patrimoine, mon CGP ou mon banquier privé, je sais investir comme les institutionnels avec un portefeuille packagé, piloté et simple. Donc, accès, diversification, simplicité, ce sont les trois clés du succès des fonds de fonds.
Bon, on termine, il nous reste quelques secondes. Tout ça, c'est pas gratuit, évidemment, il y a quand même des frais.
Oui. En deux mots, 2%. Ça coûte à peu près 2%. Pour faire tout ça, on est 74 personnes chez Altaroc, on ne fait que ça. Alors, vous allez me dire, 2%, c'est plus que la gestion typique cotée. Oui, mais ce qu'il faut regarder, On construit des portefeuilles, on diligente des gérants, on assiste à toutes les réunions de reporting, trimestrielles, semestrielles, annuelles. On change de gérant si ce n'est pas opportun, on crée le middle, le back, le front, on éduque, on répond aux questions, on gère la conformité. On a un call center qui répond à 3000 questions par mois, nos CGP et nos banquiers privés, donc tout ça c'est complexe, ça coûte 2%. C'est ultra transparent, c'est extrêmement simple, on explique toute notre structure de frais, c'est que 2%. Et à la fin, ce qui compte Antoine, c'est est-ce que net de ces 2%, je sais aller chercher une performance qui est supérieure à celle des marchés cotés, parce qu'il faut bien que je sois rémunéré pour les liquidités. Et en tout cas, historiquement, la réponse est oui. Historiquement, nos gérants historiques ont généré des performances absolument remarquables qui, net de nos 2%, sont encore très supérieures à celles des marchés cotés. Donc, le private equity, ça a un coût. Pour se bâtir ses portefeuilles clés en main, ça coûte à peu près 2% de façon totalement transparisée et simple.
Merci beaucoup Frédéric Stollard d'Altaroc, hein, le private equity au service de l'investisseur particulier. Ça reste une opportunité de diversification. On se retrouve le jeudi 20 novembre au pavillon d'Armenonville pour TPI, l'événement auquel vous assisterez. Et puis on pourra parler encore très très longuement de ces dynamiques d'investissement. Merci d'avoir été à l'écoute de ce TPI un petit peu particulier à cause de l'agitation politique. Je vous retrouve à 15h30 avec Guillaume Sommerer dans BFM Bourse. Et d'ici là, vous retrouvez Marie Cœur de Roy, les experts de l'IMO. C'est tout de suite.
Tout pour investir, l'événement sur BFM Business.